franceinter.fr.
Une première mondiale à la une aujourd'hui et un traitement très prometteur pour la maladie de Cloves, appelée parfois syndrome d'Elephant Man.
Ouvrez les rideaux, je vous prie.
Il est anglais, il vient d'avoir 21 ans et il s'appelle John Merrick. Chers confrères, notez, je vous prie, l'extrême hypertrophie du crâne, l'invalidité complète du bras droit et la cambrure inquiétante de la colonne vertébrale. Tournez-le, s'il vous plaît. La peau est flasque et présente des tumeurs fibreuses qui recouvrent le corps à 90%. On a surnommé le sujet l'homme éléphant.
Un extrait donc du film Elephant Man de David Lynch, sorti en 1980, inspiré de l'histoire vraie de Joseph Merrick, un Britannique mort en 1890 à l'âge de 27 ans. Plusieurs maladies génétiques très handicapantes et parfois mortelles entraînent ce genre de déformation. L'une d'elles, la maladie de Cloves, vient peut-être de trouver un traitement. Un article paru hier dans la revue Nature présente les résultats d'une étude clinique menée à Paris. Et Axel, on en discute avec le médecin qui a coordonné ce travail.
Oui, nous sommes avec en studio avec le néphrologue Guillaume Cano. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin donc à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris et chercheur pour l'INSERM. Petite précision avant d'entrer dans le détail de votre recherche. Même si les symptômes sont exactement les mêmes, Joseph Merrick, qui a inspiré Elephant Man, n'avait peut-être pas le syndrome de Cloves.
Alors effectivement, on n'est pas certain du tout, puisque jusqu'à il y a quelques années, on pensait qu'il avait une neurofibromatose. En fait, il y a diverses maladies génétiques qui s'accompagnent de déformations comme ça du corps. La plus connue, la neurofibromatose. On sait qu'il n'est pas de neurofibromatose puisqu'il a eu des tests génétiques post-mortem. Mais il reste maintenant deux hypothèses principales. La première est une mutation d'un gène qu'on appelle AKT1 et qui s'appelle le syndrome de Proté. Et puis, l'autre hypothèse reste la mutation du gène PIK3CA qui se traduit par le syndrome de Cloves.
Et les symptômes et les désagréments sont toujours les mêmes par contre?
Alors les symptômes sont à peu près les mêmes dans les deux pathologies, que ce soit le Proté ou le Cloves, avec peut-être un peu plus de déformation osseuse dans le syndrome de Proté. Et finalement, on est en train de se rendre compte que le syndrome de Proté est peut-être exceptionnel. Il y a beaucoup de personnes qui ont été étiquetées à tort syndrome de Proté, alors qu'en fait, ils ont très certainement un syndrome de Cloves.
Alors, vous publiez donc hier les résultats d'un essai clinique de 18 mois que vous avez mené sur 19 patients pour une molécule imaginée en premier lieu pour traiter des cancers. Expliquez-nous comment vous est venue l'idée d'utiliser ce traitement en particulier pour le syndrome de Cloves.
Alors tout à fait, l'histoire a débuté en septembre 2015 avec un patient qui venait me consulter avec un syndrome de Cloves. Et ces patients qui ont ces malformations et déformations vasculaires, osseuses, etc., porte une mutation dans un gène qui s'appelle PIK3CA et il se trouve que ce gène muté est également retrouvé malade dans un certain nombre de cancers, cancer du sein, cancer du côlon, quelques maladies du sang. Et ce gène malade confère trop d'activité à la voix qui est en aval de PIK3CA, qui donne envie à la cellule de grossir, de proliférer, de se multiplier beaucoup. Et elle représente en fait une cible d'intérêt pour l'industrie pharmaceutique puisque de nombreux laboratoires essayent de bloquer cette voie en cancérologie en se disant que ça pourrait être un traitement additif pour certains cancers. Et il était marrant de voir qu'en fait les patients atteints de déformation avec ce gène muté avaient exactement la même mutation que celle qu'on trouvait dans le cancer et que personne n'avait jusqu'à présent eu l'idée de leur proposer le traitement qui était en cours d'évaluation et de développement par différents laboratoires.
Et finalement, ce traitement s'avère plus efficace contre la maladie de Cloves que contre le cancer ?
Alors ça, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire parce qu'en fait, les essais cliniques en oncologie sont en cours. Donc la phase 1 de ce médicament en oncologie vient d'être publiée. D'accord. Il y a quelques semaines. Donc dans une phase 1, en fait, donc ce sont des patients qui avaient des cancers très avancés, résistants aux différents traitements habituels, et donc les patients avaient des chimiothérapies avec en plus ce traitement. Et dans la phase 1, on teste la pharmacocinétique, c'est-à-dire qu'on regarde comment le médicament se distribue dans le sang, dans les différents tissus, et on regarde potentiellement si le médicament est toxique pour des organes, et si, par ailleurs, il peut avoir un effet bénéfique dans cette pathologie. Donc l'objectif principal de la phase 1, c'est pas de savoir si le médicament va guérir les gens en oncologie, mais simplement s'il est bien toléré et s'il peut être éventuellement utilisé dans des phases supplémentaires.
En revanche, Guillaume Cano, ce qu'on peut dire, c'est que les résultats que vous obtenez sur le syndrome de Cloves sont vraiment impressionnants.
Spectaculaires.
Oui, on lit vos comptes rendus, beaucoup de vos patients vont beaucoup mieux.
Alors, je dois dire qu'on a été étonné par ce résultat. Je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Quand on a donné le médicament, qui est un comprimé, en fait, à prendre, donc tout simplement un comprimé qui se prend tous les matins, et lorsque on a donné ce premier médicament à ce jeune garçon Emmanuel, le premier patient, je m'attendais à ce que l'on ait simplement un ralentissement de la progression des différentes tuméfactions, des différentes malformations qui, mine de rien, au fil des années, continuent de progresser. Mais je ne m'attendais pas du tout à avoir un effet bénéfique aussi spectaculaire avec une fonte des différentes masses, une amélioration des différentes malformations, une amélioration de la qualité de vie. Et en un temps record, puisqu'en fait, dès le lendemain ou dès le surlendemain, il m'avait appelé en me disant « Mais il y a quelque chose qui se passe, je suis en train de me sentir mieux, les œdèmes disparaissent, etc. »
Oui, et ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette maladie, c'est pas simplement des symptômes visibles, c'est aussi des douleurs, une fatigue, et c'est là que ça marche vraiment bien.
C'est effectivement toute la complexité de cette maladie. Il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord les manifestations cliniques. Il y a beaucoup de manifestations cliniques différentes, on pourra en discuter après, mais qui vont d'une petite anomalie isolée à des malformations très intenses, comme au cours du syndrome de Kloves. Et les patients ont quand même quelques caractéristiques communes. Ils ont des douleurs intenses liées aux compressions, déformations d'organes et également une fatigue qui est commune à l'ensemble des patients.
Alors, les tests, vous les avez menés avec le laboratoire Novartis qui vous a fourni le médicament. Est-ce que vos patients vont continuer à bénéficier du traitement maintenant que l'essai clinique est terminé, en quelque sorte ?
Alors, c'est pas un véritable essai clinique, c'est un protocole en fait de recherche approuvé par l'agence du médicament. C'est pas une étude randomisée, contrôlée comme on a l'habitude de le faire. On a eu l'autorisation d'utiliser ce médicament sur les 19 premiers patients, puis maintenant il y a une 20e patiente qui a débuté il y a quelques jours. On a eu une autorisation de l'agence du médicament à titre compassionnel, c'est-à-dire il n'y avait pas d'autre issue, donc l'agence du médicament nous a autorisé à utiliser ce médicament. On espère bien entendu que le laboratoire Novartis, qui a simplement fourni le médicament, n'était pas du tout impliqué dans la prise en charge de ces patients ou les recherches qu'on a faites au laboratoire dans mon équipe, va continuer à fournir le médicament. Ils se sont engagés, en tout cas pour ces premiers patients, à pouvoir le fournir autant que nécessaire.
Alors, en 20 secondes, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette séquence, est-ce qu'il y a des effets secondaires sur ce médicament ?
Pour le moment, c'est assez incroyable. Nous n'avons eu que très peu d'effets secondaires, très très peu d'effets secondaires. Quelques aftes pour vous dire, et chez deux adultes, un taux de sucre dans le sang qui est un peu monté, c'était attendu. Probablement parce qu'on utilise des doses relativement faibles de médicaments et qu'on est dans une médecine dite de précision où on bloque vraiment la cible malade dans cette pathologie.
Merci Guillaume Cano. Je rappelle que vous êtes médecin à l'hôpital Necker à Paris et chercheur pour l'Inserm à l'INEM. Et merci à vous Axel Villard. Vous
merci.
Restez avec nous, on a encore besoin de vous.
Et je repasse tout à l'heure.
Voilà, c'est ça. À tout à l'heure. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des chercheurs des universités de Stanford et de Séoul ont mis au point une prothèse membranaire qui permet aux robots d'avoir le sens du toucher. Ce nouveau dispositif, présenté comme un nerf artificiel, contient un capteur qui transforme les pressions mécaniques en signaux électriques et agit comme une synapse capable d'envoyer un message au cerveau. Avec une telle technologie, les carcasses métalliques pourront donc être sensibles à leur environnement et développer des réflexes pour mieux s'y déplacer. Pour l'heure, les chercheurs espèrent trouver une application pour redonner le sens du toucher aux amputés. Les écroulements rocheux dans les Alpes sont de plus en plus nombreux, alerte le géomorphologue Ludovic Ravanel, interviewé par nos confrères de Sciences et Avenir. Le scientifique met en cause le réchauffement climatique dans la fonte du permafrost alpin, véritable ciment des montagnes enneigées. L'hypothèse a été validée après l'analyse du nombre d'effondrements rocheux à Chamonix. Ces dernières décennies, le géologue a observé que les températures en haute montagne ont augmenté 2 à 3 fois plus vite que la moyenne planétaire, de plus de 2 degrés en à peine un siècle. Enfin, dans les laboratoires de DeepMind, de Google, des ingénieurs ont développé une intelligence artificielle capable d'imaginer une scène en 3 dimensions à partir d'une simple image. L'IA a en effet été entraînée à déduire un environnement spatial à partir d'une photo en 2 dimensions en prenant en compte les couleurs, la texture et la luminosité des objets observés. Vous pouvez constater en images et en vidéo la prouesse réalisée par le logiciel en question sur la page Facebook de La Tête au Carré.